This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only. Terms and conditions apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Rousse à nous.
Verratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. François Pinet.
C'est parti pour l'after, c'est jusqu'à minuit, ravi de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous, ce soir avec moi, Jonathan Macardy, salut Jonathan.
Bonsoir les amis.
Damien Perrinel est là aussi, bonsoir Damien.
Bonsoir tout le monde.
Et François Manardeau en pleine forme, salut François.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Je dis en pleine forme parce que pour ceux qui ne peuvent pas le voir, il a un nez tout rouge, voilà, cette saison. Dans un instant, on revient sur le licenciement de Leonardo Jardim avec l'AS Monaco, remplacé par Robert Moreno, supporter de Monaco. On vous attend entre 2-16, on vous donne toutes les dernières infos et vous en saurez plus sur Robert Moreno avec Fred Hermel dans un instant. Dans 30 minutes, notre gros dossier ce soir dans l'after, je suis sûr que ça va vous plaire. À quoi va ressembler le foot du futur? On sera avec Ludovic Tenez qui a écrit 99 propositions dans un livre pour modifier les règles du foot. Quelles règles vont apparaître? Quelles règles vont disparaître? Venez nous dire, nous donner vos propositions au 32-16. On lira aussi vos messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio. 22h, ton avis tranché, Jonathan, qui va faire débat. Pour toi, Florian Thauvin vivra en 2020 les 6 mois les plus importants de sa carrière. Exactement. Tu nous diras pourquoi. Et puis, on est bientôt en 2020, justement. Alors, à 22h45, on va désigner dans l'after l'équipe type de la décennie. Quel est pour vous le meilleur 11 de ces 10 dernières années? Dites-le nous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Sans oublier bien sûr la première ligue à partir de 23h avec Julien Laurence. On reviendra sur la 20e journée. Norwich-Tottenham, ça a fait 2 buts partout avec encore des polémiques autour de la vidéo. On en reparlera. On parlera aussi de la 2e victoire de Carlo Ancelotti. Et on parlera aussi d'un match qui a lieu en ce moment en direct. Burnley-Manchester United. On suit ce match avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut François, salut à tous. En effet, Burnley-Manchester United, 17 minutes de jeu et pour l'instant pas grand chose à signaler au Turf Moor Stadium. Allez, peut-être un coup franc longue distance signé Marcus Rashford, repoussé par Nick Pope, ou alors un coup franc, un autre cette fois frappé par Fred qui passe juste au-dessus de la cage du gardien de Burnley. Mais pour l'instant les Red Devils sont bien timides, 0-0 entre Burnley et Manchester. On joue depuis 18 minutes.
Merci Clément, on suit cette rencontre évidemment avec toi. L'info de la soirée, donc je vous le disais, Leonardo Jardim qui va être licencié de l'AS Monaco. D'après nos informations, il va être remplacé par l'Espagnol Robert Moreno. Dans un instant, on sera avec Fred Hermel pour parler un peu plus de l'ancien sélectionneur espagnol qui va donc sans doute remplacer Jardim. Mais d'abord, on va revenir donc sur ce départ du Portugais. Bonsoir Jordan Olivier.
Salut François, salut à tous.
T'es correspondant RMC sur la Côte d'Azur. D'abord, les infos sur son départ, l'indemnité. Est-ce que c'est fait d'abord? Est-ce que c'est fait ce soir?
Il devrait être démis de ses fonctions officiellement, Leonardo Jardim. Lundi, il passera demain à la Turbie pour dire au revoir à ses joueurs. Pourquoi demain? Parce que c'est la date officielle de la reprise de l'entraînement pour l'AS Monaco. On l'a donc appris en fin de d'après-midi, début de soirée. Leonardo Jardim ne sera plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Il y a évidemment plusieurs raisons à ce limogeage. D'abord, les mauvais résultats et le jeu proposé par l'AS Monaco. Même si récemment, c'était beaucoup mieux pour les joueurs du Rocher avec 10 points pris sur 12 possibles lors des derniers matchs au mois de décembre. Donc, voilà, il y avait un mieux, mais Jardim paye notamment le début de saison complètement manqué de l'AS Monaco. Et puis les relations étaient très très fraîches entre Leonardo Jardim et Oleg Petrov. Un peu moins avec Dimitri Ribolovlev, qui est le grand boss, le grand patron de l'AS Monaco, qui a pris, lui, la décision finale. Mais les relations étaient très compliquées entre donc Petrov et Jardim. Les deux hommes ne se parlaient plus. Donc depuis quelques semaines, on le sait, c'était d'ailleurs compliqué pour Jardim. Il était sous tension. Et d'ailleurs, il avait gagné un petit sursis grâce à la victoire 5-1 face à Lille, ce qui avait repoussé l'évidence de quelques jours. Mais c'est désormais plus que certain, Leonardo Jardim ne sera plus l'entraîneur de l'AS Monaco.
Alors supporters de l'AS Monaco, évidemment on vous attend au 32-16 pour réagir à cette information importante. Est-ce que pour vous messieurs c'était la bonne décision à prendre, se séparer de Leonardo Jardim?
Mais c'est une évidence. De toute manière, écoute, depuis que Leonardo Jardim était revenu, de toute manière, il n'y a rien qui était vraiment brillant à l'AS Monaco. Si on analyse le début de saison, il y a eu des hauts et des bas, mais beaucoup de bas. Alors, c'est vrai qu'à un moment, on pouvait imaginer que Jardim avait un petit peu repris la main sur son groupe pendant leur bonne série. Mais bah, j'avoue, je me suis laissé un petit peu berner. Mais il est vrai que les performances du duo Slimani-Ben Yedder ont caché beaucoup de choses. De toute façon, en fait, le problème de l'AS Monaco, c'est pas Jardim. Le problème de l'AS Monaco, je pense que Damien le disait il y a quelques jours quand on faisait nos vœux pour les clubs de Ligue 1, c'est que Jardim a eu un parcours à l'AS Monaco qui est exceptionnel. Il a gagné un titre de champion. Il a fait dans des situations très compliquées. On lui a enlevé les trois quarts. Enfin, non, les trois quarts, j'exagère, mais la moitié de son effectif à chaque fois. Et où il devait reconstruire avec des joueurs pas forcément très aguerris. Et en fait, l'histoire aurait dû s'arrêter là, au premier licenciement. L'erreur, c'est de l'avoir fait revenir. L'erreur, c'est d'avoir pris un incompétent comme Thierry Henry au poste d'entraîneur en privilégiant juste le nom au-delà des compétences. Et maintenant, ce que l'AS Monaco doit faire, et là on va en parler avec Fred sur le nouvel entraîneur, c'est prendre un entraîneur qui est totalement compétent, mais pas seulement compétent, qui est compétent et qui est en plus capable de gérer une équipe qui évolue dans le contexte de l'AS Monaco. Et quel est le contexte de l'AS Monaco? Je parle pas du stade qui est à moitié vide, je parle du fait que ton projet, c'est de faire du trading de joueurs, pur et simple. C'est-à-dire d'être capable de faire progresser des joueurs très rapidement et d'être capable d'accepter de les vendre et de faire progresser d'autres joueurs d'année en année. Est-ce que cet entraîneur existe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est bravo à Leonardo Jardim pour ce qu'il a fait à l'AS Monaco, parce que je pense pas que beaucoup d'autres entraîneurs auraient été capables d'achever ce que lui a achevé à l'ASM.
On en a pas parlé, Jordan, mais c'est important aussi, évidemment pour lui, ce sont les indemnités de départ.
Ça veut dire qu'en un an, qui dit licenciement dit forcément indemnité de départ, il devrait toucher environ 8 millions d'euros.
Retoucher.
J'ai pas fini, effectivement, c'est déjà ce qu'il avait touché.
16 patates, il a pris là.
Il y a un peu plus d'un an quand il était parti. Et faut le dire, c'est aussi un aveu d'échec du grand patron de l'AS Monaco, qui est Dimitri Ribolovlev, car c'est lui qui était venu chercher Monaco après l'éviction de Thierry Henry pour remettre le technicien portugais sur le banc de l'AS Monaco. Donc c'est un aveu d'échec pour l'état-major de l'AS Monaco. Donc 8 millions d'euros lors de son premier licenciement. On est aux alentours de cette somme-là également.
C'est énorme.
Pour ce second licenciement.
C'est ça, c'est l'impression que ça donne, c'est que c'est vraiment l'échec de Ribolovlev. Jonathan disait, il fallait pas le rappeler. Certains ont dit, il fallait pas le renvoyer quand ils l'ont remplacé par.
L'histoire, elle était finie.
Par Thierry Henry.
C'est ce qu'avait admis d'ailleurs Dimitri Ribolovlev. Il a dit, la première erreur qu'on a faite, c'est pas de recruter Thierry Henry au poste d'entraîneur, c'est d'avoir viré dans un premier temps Leonardo Jardim.
Ouais, justement, pour rebondir sur ce que tu. Excuse-moi.
Non, vas-y, François,
pour rebondir sur Jordan, voilà, le pari Thierry Henry, de là à dire que Thierry Henry est un incompétent, moi je m'avancerai pas jusque-là, parce que tu verras que s'il a du succès dans le futur. On sait jamais. C'est une expérience qui n'a pas fonctionné.
Ah, je pensais plus d'étiquettes, de noms, de renommée que de vraies, réelles compétences.
C'est vrai que tu vas faire attention à l'incompétence en soi. Je trouve que c'est un peu fort de café d'y aller comme ça. En revanche, c'est le système global de l'AS Monaco. Et c'est marrant, quand on sonde un peu les supporters, t'avais ceux qui disaient, Jardim n'y est pour rien, c'est vraiment au-dessus de ça que ça se passe, c'est la politique sportive, en fait, qui n'a aucune cohérence et qui met Jardim dans ses difficultés. Ensuite, t'as d'autres supporters qui estiment que Jardim était responsable à 99% de cet échec. Voilà, tout simplement, aujourd'hui, c'est un tout en soi, c'est une globalité de ce club qui ne sait plus trop où il va. Il faudrait un directeur sportif, une bonne fois pour toutes, qui s'inscrit dans la durée, on lui donne les clés du camion, il s'occupe de tout. Et c'est lui le référent et qui connaît vraiment le football.
T'as raison, Damien, le problème est un peu plus global et plus structurel du côté de l'AS Monaco. On parle de trading, Jonathan, tu fais bien d'en parler, mais pour faire du trading, il faut des hommes aux bonnes places à l'AS Monaco pour le faire. Il y a quelques années, il y avait Campos pour le faire et ça marchait parfaitement bien. Aujourd'hui, personne ne remplit ce rôle pour justement jouer cette carte trading. Et on le voit, depuis quelques années, Monaco a de plus en plus de mal dans le recrutement, sachant que les Monégasques ont quand même dépensé 140 millions d'euros.
C'est
cet été pour recruter, pour les résultats qu'on a, même si je tiens un peu à nuancer les propos, la saison de Monaco n'est pas non plus catastrophique. Ils sont 7e au classement.
7e, 2e meilleure attaque de Ligue 1.
5 points de retard sur la 3e place, qui est l'objectif de début de saison de l'AS Monaco.
Alors évidemment, on va en parler avec toi, François. On va t'écouter dans un instant, 21h09 sur RMC. On revient tout de suite dans l'after. Restez bien avec nous. On continue de parler de Jardim. Si vous avez des réactions à nous donner, on vous attend au 32-16, supporter de l'AS Monaco. Et surtout, Fred Hermel est là pour nous parler du successeur probable de Jardim, l'Espagnol Robert Moreno. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. François Pinet.
De retour dans l'after avec Damien Perrinel, François Manardo, Jonathan McCarty et Jordan Olivier qui est là pour nous parler de l'info de la soirée. Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, où ça ne saurait tarder. À partir de lundi, il devrait être remplacé par Robert Moreno. Et justement, on a des infos à vous donner sur cet Espagnol que peut-être vous ne connaissez pas, Robert Moreno. On est avec Fred Hermel. Salut Fred.
Hola chicos. Comment salut les amis.
Salut Fred.
Alors, Robert Moreno.
Bien. Tout
ça,
va bien.
Ça va bien, bah, tant mieux. Robert Moreno, c'est une petite surprise de le retrouver là parce que c'est pas quelqu'un de très expérimenté, en tout cas en tant que numéro 1.
Six matchs en tant que numéro 1, puisqu'il a remplacé au pied levé, suite à la maladie de la fille de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, de juin à novembre, avec un bilan très positif, 4 victoires. Et notamment quelques minutes de football assez exceptionnelles, notamment face à la Roumanie, de cette équipe espagnole. Robert Moreno, 4 victoires, 2 nuls, une qualification comme premier de groupe, haut la main. Et puis, la sensation que c'est inconnu, parce que s'il est inconnu en France, je peux vous dire qu'au mois de juin, il était inconnu en Espagne aussi. C'était l'éternel second de Luis Enrique. En plus, Luis Enrique est quelqu'un avec une forte personnalité. Et Robert Moreno était quelqu'un qui n'existait pas du tout médiatiquement. C'était un entraîneur de club, quand il a commencé très jeune à être entraîneur, de tout petit club. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qu'on a découvert parce qu'il a remplacé au pied levé Luis Enrique. Une relation qui s'est quand même très mal terminée aussi, puisque Luis Enrique est revenu prendre le poste, il a écarté Robert Moreno, il s'est fait virer de la sélection espagnole de manière pas très élégante. Je vais pas vous cacher que le fait que Robert Moreno retrouve un club de haut niveau, enfin plutôt trouve un club, parce que ça sera sa première expérience en première division, va satisfaire beaucoup de gens en Espagne, puisque plein de gens de l'autre côté des Pyrénées avaient considéré que la manière dont il avait été écarté avait été un peu, en tout cas pas très élégante. Donc c'est difficile de vous dire si c'est un bon coach, parce que 6 matchs dans une phase de qualification qui a été franchement une balade, une promenade pour l'Espagne. Après, ce que je peux vous dire de ce que j'ai vu, c'est un entraîneur qui a des idées claires. Il est résolument porté vers l'attaque, ça c'est clair. Il fait beaucoup tourner. Il essaye beaucoup de joueurs.
Ah, c'est bien. Bien. Avec les 70 joueurs à Monaco, il va avoir de quoi faire tourner.
Voilà. En tout cas, il va en essayer beaucoup. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il a fait avec la sélection espagnole.
73 sous contrat en comptant les joueurs en prêt dans d'autres clubs.
C'est nickel. Là, il a du matos.
Ouais. Après, il faut voir ceux qui sont inscrits.
C'est l'Arche de Noé.
En division. Donc, j'imagine que c'est 23 ou 24 comme en Espagne. Mais, il essaye beaucoup de joueurs. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les baronnies. C'est-à-dire qu'il avait expliqué, par exemple, que un Ramos, le capitaine, pas très performant, il n'aurait pas eu sa place garantie comme titulaire en sélection. Voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai caractère.
Putain, qu'il est en sueur là.
Ouais, mais après, vous savez, on l'a vu en sélection, 6 matchs. Qu'est-ce qu'il va rendre dans le championnat français face à une équipe comme Monaco, qui a priori est quand même un peu compliqué à gérer en ce moment. Au niveau de la langue, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il parle français ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un parti. On avait beaucoup parlé de Marcelino Garcia Toral. Ça, je peux vous faire un livre sur lui. Mais on connaissait très bien en Espagne. C'est un vieux routier du football espagnol. Robert Moreno, c'est quand même un grand inconnu même pour l'Espagne.
Fred. Donc, quand il a pris l'Espagne,
c'est un pari risqué quand même.
Il jouait avec un ou deux attaquants axial.
Non, il joue avec un seul, parce que déjà en Espagne c'est un peu compliqué. Mais enfin, déjà le problème en Espagne, c'était de savoir quel était l'attaquant, parce que le gros problème des Espagnols, on le sait, c'est de trouver un vrai attaquant. Comptes, okay. Non, il a essayé beaucoup de formules. En général,
il est pas rigide sur son système.
Il a joué avec deux. Mais enfin, il faut pas parler de système quand on parle de. Moi, j'aime pas parler de système. D'ailleurs, quand je parle aux grands entraîneurs, ils ne parlent pas de système. Le meilleur système, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles.
Ouais, mais il est pas rigide.
En tout cas, c'est un bosseur.
Fred,
non,
mais
c'est
pas rigide.
C'est pas un dogmatique. Okay. Ce n'est pas un dogmatique. C'est-à-dire que le système, il inventera le système avec les joueurs qu'il a.
Très bien.
C'est-à-dire, il va pas venir en disant je suis dogmatique, je vais jouer comme ça. Non,
okay,
c'est pas le genre de la maison. Donc, il va étudier les joueurs. Je pense qu'il va beaucoup faire tourner parce qu'il voudra voir. Comment sont les joueurs en match et je pense qu'on va tarder un petit peu, ça va traîner un petit peu avant de voir le véritable 11 de Robert Moreno, qui, j'insiste, n'est pas dogmatique, un attaquant, deux attaquants, on verra. Enfin, ce qui compte, c'est de
non, mais on demande parce que la force de Monaco, c'est ses deux attaquants, et c'est juste pour voir si, contrairement à ce que Jardim a fait, où il a exilé Slimani sur le côté gauche, ce qui était totalement aberrant, si
il
lui,
a pas
lui
fait
il a
ça tout de même.
Ouais, mais même quand il a fait, avoue que c'était quand même très surprenant de le mettre Slimani sur un côté alors que les deux dans l'axe, ça fonctionne. Bah, c'est grâce aux deux dans l'axe ensemble qu'ils ont le nombre de points qu'ils ont.
Il a fait sur un ou deux matchs. Quelque chose qui s'est répété.
Mais même Jordan sur deux matchs, c'est quand même une aberration.
Bon, en tout cas, on va remercier Fred. Vas-y.
Oui, non, mais simplement pour terminer là-dessus, et j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en Espagne aussi, on attend de voir ce que ça va donner.
J'ai l'impression que tu parles de Celades quand il arrive à Valence, Fred.
Ouais, mais Celades, on le connaissait.
Oui,
non, mais c'est un peu ça, mais Celades, on le connaissait. C'est-à-dire que Robert Moreno, vraiment, c'est un inconnu. C'est-à-dire qu'il y a six mois, personne ne le connaissait, à part les gens très pointus du football espagnol. Vraiment, enfin, c'est...
D'accord.
Mais il bénéficie quand même, et j'en terminerai là-dessus, d'une certaine cote de sympathie, parce que l'équipe a bien joué avec lui, et parce que la manière dont il a été viré n'a pas été très belle. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouiront de voir la réussite de Robert Moreno.
Ben, merci beaucoup, Fred.
Salut,
merci
Fred.
D'être passé
merci
dans la
amis, bientôt.
À très bientôt. Ciao, on reparlera évidemment de Robert Moreno. On le voit bien, c'est un inconnu, ou quasi inconnu en tout cas pour les gens qui suivent le foot en France. C'est un nouveau pari pour Monaco. Mais... ils avaient déjà fait le pari de Thierry Henry qui n'avait pas d'expérience.
Mais et là, derrière, ils enchaînent avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience et surtout qui était sélectionneur.
Oui, c'est pas pareil.
C'est pas du tout le même métier que.
Ils veulent quelqu'un qui soit aux ordres. Ils veulent quelqu'un qui soit aux ordres.
Avouons que c'est quand même assez déceptif pour un club du standing de Monaco. Parce que quand on regarde quand même l'effectif de Monaco, il y a de quoi faire autre chose que ce qui est fait. Je ne parle pas forcément des résultats comptables. Mais
après, il peut se révéler aussi dans la position d'un entraîneur.
Ouais, mais moi, je pense que quand tu as viré Jardim la première fois, il fallait vraiment aller dans une rupture et prendre un entraîneur qui soit de la classe au-dessus, de la trempe au-dessus, un entraîneur qui ait de l'expérience, qui a eu l'expérience de la Coupe d'Europe, qui a l'expérience des grands clubs. Marcelinho, moi je le connais pas tant que ça, François, pourra nous en dire peut-être un peu plus si on aborde le sujet, mais ça me semblait être une piste qui était intéressante. Très franchement, prendre un entraîneur qui est un novice, il faut le dire, c'est un novice parce qu'il n'a pas entraîné de club du standing de Monaco, il a jamais entraîné de club.
Ça te rappelle quelqu'un?
C'est quand même un petit peu curieux.
Ça te rappelle quelqu'un?
Thierry Henry.
Exactement. Donc ils refont la même chose. S'ils le refont, c'est qu'il doit y avoir une raison, voire même peut-être une stratégie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un grand nom vienne faire dans cette galère monégasque? C'est un bourbier, l'ASM. Leur stratégie s'est transformée en bourbier à faire du trading. 73 contrats avec les prêtés. Mais qu'est-ce qu'un entraîneur qui a deux sous de jugeote, à part pour le chèque, ça compte le chèque évidemment, mais va venir faire
ce
rocher?
Moi je te donne une autre raison.
C'est injouable.
Le chèque, la qualité de vie.
Oui, la qualité de vie.
Et la surface financière, parce que mine de rien, même si tu prends beaucoup de joueurs et que c'est pas forcément des réussites, à chaque mercato, t'as quand même une enveloppe qui est considérable pour recruter.
Ouais, enfin, moi, t'as des sacrés joueurs dans l'équipe.
Ils ont dû en essuyer des refus de coach, parce qu'on sait pas tout, mais un Marcelino, qu'est-ce qu'il a à faire à Monaco aujourd'hui? Franchement, c'est un super coach, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, pour aller à Monaco, faut t'inscrire dans le projet, faut être aux
ordres. T'as quand même une belle équipe, hein.
Je trouve dingue de le virer. Je trouve dingue. Ils ont deuxième meilleure attaque. Ok, la défense, c'est là qu'il y avait vraiment un gros chantier. Et ils ont le mercato d'hiver pour ajuster et ils ont de l'argent parce que c'est l'ASM. Donc ils ne le font pas. Ils le virent parce que tu en as parlé et il faut revenir là-dessus. Des relations dégueulasses avec Petrov, qui est le nouveau patron. Ils ont viré quoi? Deux directeurs sportifs après Campos. Donc c'est évidemment et objectivement un club qui a un souci de gestion.
Dortmund, je sais plus comment il s'appelle, celui qui était Dortmund avant, qui était directeur sportif à Monaco.
Depuis le départ de Luis Campos, c'est vrai qu'au niveau des transferts, il y a eu pas mal de ratés. On va prendre Cédric à 21h21 dans l'after sur RMC, supporter de Monaco. Salut Cédric.
Bonsoir l'after.
Bonsoir Cédric.
Alors quand t'as appris la nouvelle là, sur RMC, Jardim viré, ça t'a fait quoi?
Alors j'étais soulagé, j'avoue que j'étais soulagé. Ça fait des mois que Jardim, pour aller au stade à chaque fois, je suis désolé, je vais le dire, on s'emmerde. Il n'y a pas de fond de jeu. Les joueurs, il y a des remplacements. C'est fantastique ce qu'on arrive à voir sur le terrain. Quand Golovin est au pic de sa forme, on fait des changements. Enfin, ça fait quelques mois que j'ai l'impression qu'on ne comprend plus Jardim et que les joueurs ne lui comprennent plus aussi. Aujourd'hui, de savoir qu'il s'en va, ouais, je suis soulagé parce que j'ai envie de voir du jeu à Monaco. Vous parliez que le problème, c'est surtout dans les instances dirigeantes et je suis d'accord avec vous. Pour moi, Jardim n'aurait jamais dû revenir. Merci pour le titre. Merci pour tout ce qu'il a fait. Mais l'erreur, on l'a fait en décembre dernier. Enfin, en janvier, en le faisant revenir, on aurait dû passer à un autre cycle. On a les moyens, vous venez de le dire. On avait les moyens d'attirer. On a un club attractif. Je suis sûr qu'on a d'autres grands coachs qui seraient prêts à venir à Monaco. Mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de personnes encenser Jardim et dire merci. Oui, merci. Mais ça fait pour moi 6 mois. Depuis le mois d'août, on aurait dû changer.
Il y a qui pour faire du jeu à Monaco? Dis-moi.
Pardon?
Il y a qui pour faire du jeu à Monaco aujourd'hui?
Golovin. Golovin, oui, quand même.
Fabregas, non, mais... qui est une escroquerie.
Fabregas, il est quand même intéressant. Quand tu as Golovin.
Pour faire du jeu, notre auditeur parle de jeu.
Ouais, mais quand tu as Golovin, quand tu as Bakayoko, ben tu peux mettre dans des meilleures conditions. Quand tu as Ben Yedder, quand tu as Slimani,
Adrien Silva,
qui est quand même un très bon joueur, même Keita, qui peut être ressuscité. Parce que
tu me cites des attaquants. Il y a quoi entre les deux, en fait?
Voilà,
au milieu, Bakayoko, c'est marqué des buts. Je suis là,
Bakayoko, c'est pas mal.
Silva, c'est pas mal. Golovkin, c'est.
Golovin,
parce que. Golovin, c'est quelqu'un d'autre.
C'est très bien, Golovin. On peut le dire quand même, Fabregas.
Non, mais alors là, tu es en train de nous dire que si Monaco ne faisait pas de jeu, c'est parce qu'ils n'avaient pas les joueurs pour. C'est pas de la faute de Jardim.
Ah non, perdu qualitativement.
Non, non,
pas
de faute de Jardim. Derrière, on change tout le temps. On change tout le temps. Dans tous les matchs, on voit la charnière derrière, ça tourne. Moi, je dis aujourd'hui, la faute de passage de Jardim, c'est Ben Yedder. À chaque fois que Jardim était quasiment sur la tête, Ben Yedder, allez, claque un doublé. Tant mieux. Merci.
C'est pas le jeu, Ben Yedder, c'est le jeu.
Mais non.
Tu joues avec Jemerson en 6 quand même.
Au milieu de terrain, il y a quand même de quoi mieux faire que ce que tu fais actuellement. On a parlé de Golovin. Il y a Bosquilia, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est jamais aligné correctement? Gelson Martin, son utilisation, moi, sur un piston, en piston, je trouve que
c'est un super joueur.
C'est un bon joueur, mais en piston, c'est peut-être un petit peu le gâcher. Tu peux trouver un système avec les joueurs que tu as, la richesse de l'effectif que tu as, pour mieux faire que ton équipe joue beaucoup mieux. Parce que tu as un numéro 10 que tu peux pas faire jouer ton équipe.
Ce qui était reproché également à Leonardo Jardim, c'est de s'appuyer davantage et trop peut-être sur ses lieutenants, Jemerson, Glee, qui sont effectivement des joueurs en grande difficulté cette saison, et c'est ce qui lui était reproché. Pourquoi Jardim ne fait pas jouer Aguilar? Pourquoi sur les derniers matchs il préfère mettre Jemerson arrière droit plutôt qu'Aguilar? C'est des questions qui ont également divisé le vestiaire, et certains ces choix étaient également remis en question au niveau du vestiaire de l'AS Monaco.
Juste un mot, Cédric, sur l'information RMC, donc sur l'arrivée probable de Robert Moreno à la tête de l'AS Monaco. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est un grand fraîcheur. Personne n'attendait. Enfin, j'en avais jamais entendu parler à Monaco avant ce soir, avant d'écouter RMC. Il a utilisé une sélection nationale. Après, il a été adjoint au Barça. Ce qu'il peut nous apporter, c'est volontiers. J'avais entendu d'autres noms qui me donnaient beaucoup envie. Aujourd'hui, je suis curieux.
Lequel t'a donné plus envie?
Pour moi, Marcelino, j'avoue que de l'entendre, ça m'aurait fait plaisir d'avoir un entraîneur comme Marcelino venir à Monaco. Après, on entend tout dans les médias, donc je vais pas sortir n'importe quel nom. Pour moi, tant que c'était plus Jardim, j'étais satisfait.
D'accord.
Je dis, je veux voir du jeu. Maintenant, d'avoir un nom, de Moreno qui vient, je me suis renseigné avant de vous appeler. Je suis curieux. Par contre, c'est peut-être un coup de poker. On sait pas ce que ça donne. On est 7e au championnat. On saura pas s'il pourrait faire mieux que Jardim. Je pense que oui. Maintenant, c'est l'avenir qui me dira. On va sur un cheval qu'on ne connaît pas.
Merci beaucoup, Cédric.
François, merci
d'être passé dans l'after.
François,
à très bientôt.
Le défi est important pour Moreno, puisque ça va repartir très fort pour l'AS Monaco avec la Coupe de France le 5 janvier, et double confrontation face au Paris Saint-Germain. Ouais. Donc tout de suite, il va devoir faire ses preuves sur le banc de l'ASM.
Voilà, sur Leonardo Jardim et sur le successeur, donc Robert Moreno.
François, oui, vas-y. J'espère juste une chose, c'est que le successeur de Jardim va venir aussi avec quelque chose qui me semble être essentiel pour l'AS Monaco. C'est un staff médical et un préparateur physique. C'est pas possible non plus d'avoir autant de blessés.
Ouais. Bon, ça, c'est le cas dans beaucoup de clubs actuellement.
Il y a quand même une liste de blessés qui
pense à Lyon, je pense au PSG.
On peut avoir un doute important par rapport à cette question que tu soulèves justement, parce que s'il vient et qu'il est aux ordres, je pense que c'est le club qui va lui imposer tout ou partie de ce staff médical. Mmh. Alors qu'ils ont un vrai problème aussi de ce côté-là. Enfin, pour moi, je veux dire, il n'y a que des problèmes. C'est un bourbier. Là.
Et puis, on se souvient, Thierry Henry, quand il était là, il avait quoi? 12 ou 13 blessés à chaque match aussi.
Ah oui,
donc, en gros, au bout d'un moment, c'est un bourbier, comme le dit François. Il y a beaucoup de choses à régler, peut-être avant le sportif aussi, à Monaco.
Bon, on va faire un détour par la Première Ligue. Burnley, Manchester United. Où on en est, Clément Brossard?
On n'est pas très loin pour tout te dire, François. On est à 4 minutes de la mi-temps et on a quasiment rien à signaler, si ce n'est peut-être une frappe de Anthony Martial repoussée sur sa ligne par un défenseur de Burnley. 0 frappe pour les locaux de Burnley. On a le gardien Nick Pope qui est touché à la cheville et Hart qui pourrait peut-être faire son entrée dans quelques instants sous les yeux de Sir Alex Ferguson, bien présent ici au Turf Moor Stadium. Mais pour l'instant, c'est une équipe des Red Devils très très timide. Alors on vous informe également que Paul Pogba n'est pas sur la feuille de match, hein, mis en repos avant le match de mercredi certainement face à Arsenal. McTominay est blessé au milieu. Si on se retrouve avec Fred et Nemanja Matic qui n'avaient pas débuté un match depuis bien longtemps, depuis le mois de septembre. Une équipe plus ou moins remodelée, une équipe qui n'arrive pas à faire la différence pour le moment. 42e minute, 0-0 entre Burnley et Manchester.
Merci beaucoup Clément. On revient tout de suite dans l'after avec notre dossier sur le foot du futur. Comment vous imaginez le foot du futur? Les nouvelles règles, les règles qui doivent disparaître, on en parle tout de suite dans l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC. L'after foot, François Pinet.
De retour dans l'after, 21h30, on est ensemble jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, Damien Perrinel, François Marnardo sont là. Dans un instant, on va parler du foot du futur. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hashtag RMC Live et le 32-16, bien sûr. Un détour d'abord par l'Angleterre, puisqu'il y a eu un but, Clément Brossard, Burnley Manchester United.
Ça a bougé juste avant la mi-temps, alors qu'on rentre à l'instant dans le temps additionnel. C'est les Red Devils qui ont pris les devants grâce à monsieur Anthony Martial. Il est en pleine forme en ce moment, l'ex-Lyonnais, l'ex-Monégas. Et sur une récupération haute d'Andrés Pereira, il vient donc transformer seul face à Nick Pope et donner l'avantage à une équipe de Manchester qui n'avait pas réussi à faire la différence jusqu'ici. Match très fermé, mais Manchester a trouvé la faille. Anthony Martial buteur, Manchester mène 1-0 sur la pelouse de Burnley. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel en première période.
Et on parlera de ce match évidemment avec Julien Laurence à 23h. Pour nous accompagner pour ce grand dossier de l'after sur le foot du futur, on accueille Ludovic Tenez. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur agrégé à Paris Descartes, passionné de football. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez écrit un livre il y a quelques mois maintenant qui s'appelle « Et si on modifiait vraiment les règles du football » aux éditions L'Harmattan. Il s'agit de 99 propositions pour modifier les lois du jeu. Alors ce sont des propositions qui sortent pas de n'importe où, parce que vous avez vu dans les archives du board que certaines avaient été proposées et pas toujours adoptées. C'est ça ?
Tout à fait. Donc j'avais sorti déjà une première livre qui racontait les 150 ans du football, comment ça avait évolué, toutes les lois du jeu à partir de l'origine. Et là, j'avais trouvé énormément de lois expérimentées qui avaient été refusées par le board en fait, et des propositions bien sûr des membres du board, des quatre fédérations anglaises ou de la FIFA. Et donc j'en ai retrouvé à peu près une 80 qui ont été refusées et déjà expérimentées. Et mon hypothèse, c'est qu'effectivement, si elles ont déjà été expérimentées et plusieurs fois, c'est qu'un jour, certaines vont aboutir, puisque ça s'est toujours passé comme ça. On met beaucoup de temps au board à réfléchir sur la question.
Oui, des fois, c'est parfois très très long. Alors, on va bien sûr détailler certaines de ces propositions. Il y en a plus ou moins amusantes, certaines qui révolutionneraient même le jeu, le football. Mais d'abord, est-ce que le foot, comme on l'entend souvent, c'est un sport qui évolue peu par rapport aux autres sports ?
Quand j'ai commencé ces recherches il y a 10 ans, c'est ce qu'on disait, c'était un sport rétrograde par rapport au rugby qui s'était mis à la vidéo, au volleyball qui a changé beaucoup de choses, le libéro par exemple, au basket qui a changé ses règles aussi. Donc on a eu beaucoup d'évolutions, sauf au football. Mais bien sûr, ma démonstration, c'est que chaque loi du jeu a évolué effectivement depuis l'origine, et des évolutions gigantesques ou pas, et des petites modifications. Mais le titre est provocateur, c'est vraiment changer les règles. Ça veut dire qu'avec la VAR, on n'a pas changé les règles, on a changé uniquement l'interprétation des règles. Oui. Ça faut déjà premièrement le comprendre. Et je suis pas du tout certain qu'il faut changer absolument les règles, puisque c'est un jeu miraculeux. Des règles, il y en a 17. Il y en aura pas plus dans les 10 ans à venir. Il y en aura tous 17. C'est un chiffre.
Oui, mais il y a des propositions quand même que vous faites et qui sortent pour améliorer le jeu. En tout cas, ce que on peut imaginer.
Chaque loi du jeu, on peut faire des propositions parce que chaque loi du jeu évolue. Donc il y aura peut-être des petites modifications. Et il y a effectivement 3-4 règles qui sont discutables.
Alors, on va en parler justement de ces règles, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a déjà sur le hashtag AMC Live quelques propositions, alors que c'est la mi-temps, hein. Burnley, Manchester, Clément Brossard.
Ouais, la mi-temps, un but à zéro donc pour Manchester United grâce à Anthony Martial, 44e minute.
Alors les propositions sur le hashtag RMC Live, ou sur le hashtag d'ailleurs qu'on a mis en avant, Mon Foot du Futur, pour la Capre par exemple, c'est faire les touches au pied. Voilà une proposition qui changerait peut-être la donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, faire les touches au pied. C'est nul pour Jonathan.
Aucun intérêt.
Très bien.
Si ils nous envoient les auditeurs qui sont pour la plupart brillants, nous envoient la proposition, qu'ils expliquent pourquoi.
On aura bien sûr Jean-Michel dans un instant qui a une proposition à nous donner. Mais Ludovic, juste sur ces propositions, est-ce qu'il y en a qu'on pourrait voir apparaître
Alors, concrètement, justement, on peut en parler très facilement. Ça a été testé la première fois à Monaco en 76. Et quand on demande à Arsène Wenger, la seule règle à modifier, c'est de faire des touches au pied. Il l'a dit en 2009. Arsène Wenger, c'est lui qui va siéger au board dans quelques temps. Il faut le savoir. Donc, les touches au pied ne semblent pas une aberration.
Mais pourquoi?
Alors,
quelle est la différence du coup avec un coup franc? Est-ce que quand on laisse sortir un ballon en touche, parce que sur une phase défensive, tu vois, on voit que son équipe n'est pas replacée, ça peut être stratégique. Et si on décide de les tirer au pied, c'est un coup franc. Donc ça perd un petit peu de sa valeur.
C'est pas un coup franc. Parce que ce sera forcément sur un côté. Un coup franc, il peut être axial, peut être excentré.
C'est comme un corner,
non.
C'est une sorte de sous-corner.
C'est
un sous-corner. C'est un sous-corner.
Mais bien sûr, les professions sont souvent faites pour améliorer le spectacle. Donc, améliorer le nombre de buts, le nombre d'occasions de buts. Effectivement, c'est effectivement les règles ont changé quand le football se meurt, comme je dis, quand le football se meurt. C'est arrivé en 25, quand il y avait trop de hors-jeu. Donc Newcastle mettait toutes les équipes hors-jeu. On a changé la règle du hors-jeu. La dernière grande modification des lois du jeu, où on passe de 3 joueurs à 2 joueurs maintenant. Mais je vais dire 2 joueurs.
Le football se meurt en ce moment.
On a eu moins de buts en 90 à la Coupe du Monde. On a commencé à changer les règles avec le gardien de but. Ça paraissait incroyable que le gardien de but ne puisse plus servir ses mains sur une passe d'un partenaire. Ça paraissait incroyable. Et on a changé.
Il faut vraiment savoir qu'en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, on joue avec les règles et on joue en fait à contourner ces règles. C'est le principe en soi de la
tactique,
de tout ce qu'on veut, du contournement. Et quand on voit qu'une règle est trop facilement contournée ou qu'on en abuse, forcément, là, il y a peut-être un ajustement à faire. On se souvient quand le gardien n'avait plus le droit de jouer, de prendre le ballon à la main sur les passes en retrait. C'est parce qu'au bout d'un moment, il y avait de l'abus et ça coupait tout spectacle.
Est-ce que là, vous nous avez dit, Ludovic,
et pourtant, ça a tué
que ça doit s'adapter quand le football se meurt. Est-ce que là, le football se meurt vraiment? On a quand même des matchs spectaculaires, on a des émotions qui sont quand même extraordinaires. Il y a un terme qui me dérange un peu, c'est qu'on parlait de spectacle. Pourquoi le foot devrait être un spectacle? Je sais qu'on a tendance à vouloir faire en sorte que toute la société devienne un spectacle, sans devenir situationniste, évidemment. Mais pour moi, le football, tel qu'il est actuellement, si on vire la VAR, c'est parfait. Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne?
Qu'on ne virera pas.
J'en ai rien à faire. En termes de foot, j'en ai rien à faire du spectacle.
Dans l'UFC.
Je m'en moque du spectacle. Ben non, l'UFC, c'est pas du spectacle.
Tu aimes les entraîneurs qui font le spectacle. T'es un adorateur de Bielsa.
Et j'adore Simeone aussi.
Ah, d'accord. Non, mais dans la question de. Vous avez soulevé une chose qui m'intéresse, parce que sinon, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'artifices à vouloir changer les règles d'un jeu qui a eu la chance depuis très 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 longtemps, personne n'était né quasiment autour de cette table, d'avoir des règles bien faites sur les 17 règles du jeu. En revanche, même si on a, Jonathan, de la qualité, et notamment on l'a vu avec la dernière saison de Ligue des Champions, pour nous Européens, une qualité extraordinaire, je pense que c'est un sport qui peut, avec d'autres modifications, je ne sais pas si on pourra en parler ce soir, dans le format des compétitions, dans leur calendrier aussi.
On en parlera. Là, on parle des règles, mais effectivement, ça, on va en parler.
C'est un sport qui peut imploser dans les années à venir.
Mais c'est autre chose.
En revanche, sur les règles à modifier le jeu, alors je vais citer Roland, j'étais avec lui il y a une semaine,
il a fait
une proposition très intéressante gestion des joueurs dans les remplacements, on l'a vu hier soir par exemple, si le gardien est expulsé ou qu'il se blesse, de ne pas compter le remplacement du gardien parmi les trois remplaçants.
Mais c'est nul ça, c'est intéressant
parce que on se retrouve avec des entraîneurs trop tôt pénalisé parfois c'est quelque chose où tu subis
Pourquoi?
Parce que tu peux être amené à subir en tant qu'entraîneur trop tôt dans le déroulé de ton match et dans la stratégie, la gestion tactique que tu veux apporter à ton match selon que tu sois mené ou selon que tu mènes, tu peux être un peu trop tôt pénalisé pour des questions de blessure ou d'expulsion.
Mais ton gardien, il n'a qu'à pas faire faute.
Mais non, mais en cas de blessure,
il n'a qu'à faute. Jonathan,
toute connerie mérite peine.
Non, le gardien, quand il se blesse, déjà, c'est le seul c'est le seul joueur sur le terrain.
Il a dit quand il se blesse et quand il expulse, c'est les deux.
Oui, mais quand il se blesse,
il y a quand même une différence.
Ouais, mais quand il se blesse, c'est quand même un cas.
Ludovic Tenez.
On peut différencier entre se blesser et être expulsé. C'est pas pareil.
Il y a qu'à Faucon.
Sur ce cas évoqué par François Manard.
J'ai essayé de ne pas couper la parole.
C'est bien.
Excusez-nous.
C'était très bien sur l'élasticité des règles,
puisque les joueurs vont au bout, l'élasticité des règles. Et ça, c'est vrai. La règle des 6 secondes est un exemple flagrant, la règle du gardien de but. On voit que les arbitres ne sifflent pas, on va en profiter, on va jouer 10-12 secondes. Ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'à 3 cm près, on siffle un hors-jeu, et à 6-7 secondes de plus, on va pas siffler le coup franc indirect.
Juste ça remarqué,
donc, c'est une règle, ça, elle va changer, puisqu'on ne l'applique pas. Donc celle-là, c'est un des exemples qui va changer.
Comme il y avait la règle des 3 pas à l'époque, des 3 pas du gardien à l'époque,
tout à fait,
qui a changé.
Pas.
Voilà, ouais.
Sur les remplaçants, un siècle sans remplaçant. On s'est battu pour avoir des remplaçants jusqu'en 1970. Les premiers remplaçants arrivent en 70. Après, on a eu deux remplaçants, donc 2 plus 1, le gardien, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel en 94. On peut changer son gardien à plus 2 joueurs. En 95, 3 joueurs, on peut changer. Aujourd'hui, dans le championnat d'Europe Espoir, les qualifications, on peut en changer 5 avec 3 temps de jeu d'arrêt. Donc, c'est le sens de l'histoire. On va avoir de plus en plus de remplaçants. C'est le sens de l'histoire.
C'est ce qu'a demandé Tourelle également. Il a parlé de 6 remplaçants.
Et effectivement, le rentrer et ressortir. Pourquoi pas, puisque c'est c'est le seul sport co où on ne peut pas sortir et rentrer du terrain.
Et de même qu'aujourd'hui, il me semble qu'en prolongation, on a le droit
à un quatrième. Alors, on va revenir, parce que vous avez énormément de réactions sur le 32-16. On est obligé de revenir. On va continuer à parler de ce foot du futur. Il y a par exemple sur l'hashtag MonFootDuFutur qu'on vous a mis à disposition sur Twitter. Application officielle du carton blanc pour exclusion temporaire. On pourra en parler dans un instant avec Ludovic Tenez, auteur de Simon. On modifiait vraiment les règles du plus foot. Restez bien avec nous.
RMC. L'Afterfoot. François Pinet.
21h42 de retour dans l'after. Je vous rappelle l'info de la soirée. Leonardo Jardim va être remplacé par Robert Moreno, l'Espagnol, à la tête de l'AS Monaco. On en a parlé avec François Manardo, avec Damien Perinel, avec Jonathan Macardy. Pour l'instant, on est dans notre dossier sur le foot du futur. On aime bien se projeter, pas seulement en 2020, peut-être dans les années prochaines, avec Ludovic Tenez, auteur de « Et si on modifiait vraiment les règles du football ?» aux éditions L'Armatan, avec 99 propositions que vous avez faites donc dans ce livre sorti il y a quelques mois. On était en train de parler de plusieurs modifications possibles, des modifications à la marge, mais qui peuvent changer quand même la donnée, et notamment de ce carton là, ce carton blanc ou orange comme on veut, on peut l'appeler comme on veut, qui permettrait, comme au rugby, de sortir un joueur une dizaine de minutes ou 15 minutes après, c'est à voir, et puis de re-rentrer ensuite pour éviter peut-être d'avoir un match qui se termine à 10 contre 11 dès les débuts de la partie.
Tout à fait. Donc ça, c'est une proposition redondante. Donc, ça va arriver. 76, tournoi de Monaco. On a testé cette règle, effectivement, tournoi de Monaco. 88, en Autriche, on l'a testé. Les propositions de Van Basten de 2017, c'est l'une de ces propositions. C'est le responsable technique de la FIFA, technique de la FIFA, ça veut dire. Et effectivement, c'est une de ses propositions. Et effectivement, tous les autres sports co, on a le droit, on a un peu cette expulsion temporaire, ou 2 minutes, ou 10 minutes, etc. Donc, on peut dire que c'est dans l'air du temps. J'ai pas dit que c'était une bonne chose. Après, sur le déséquilibre numérique, ça change le match, effectivement, tout de suite. On le voit. Dès qu'il y a un déséquilibre numérique, même en rugby à 15 contre 14, ça change tout.
Alors, le carton orange, l'exclusion temporaire.
Moi, je suis pas du tout.
Mais vous êtes conservateur aussi. Hein.
Non, alors attends, laisse-moi finir. C'était mieux avant. Moi, j'ai plutôt tendance à dire c'était mieux maintenant. Toutefois, encore une fois, ce sport dans ses règles, puisqu'on parle là de carton blanc ou d'expulsion temporaire, moi, je n'en vois pas. Pas l'avantage, sinon pour les entraîneurs, autant pour la question du nombre de remplacements, parce que je trouve assez aberrant qu'on ait pu vivre des matchs. Si je parle de souvenirs comme ça, on a une demi-finale de l'Euro en 68, il y avait un seul remplacement utilisé et Rivera joue quasiment tout le match et la prolongation sur une jambe. L'Italie perd un deuxième joueur ensuite sur blessure, donc ça n'est pas normal. On a connu une fois, pour ceux qui s'en souviennent, dans le championnat de France, les 3 remplacements avait été fait de chaque côté, les 2 gardiens sont expulsés, et on se retrouve, c'était Landreau, je crois que c'était un Nantes 3, et on se retrouve avec 2 joueurs de champ. Voilà, pour moi, c'est ok, c'est rigolo, mais dans la gestion d'un match, non, ça devrait
génial.
Pas arriver.
Ça fait partie de la dramaturgie du sport, ce qui fait qu'on aime le foot, ça fait des petites histoires. Après, je suis désolé, attends, tu nous parles d'un carton blanc.
Finir,
non, mais quand t'es expulsé, quand tu déconnes, t'as une
laisse-moi
peine.
Laisse-moi finir.
Oui, mais des fois, on déconne, on sait pas si c'est carton rouge, on parle souvent. Non, quand dans les commentaires, on se dit, tiens, quand, ça vaudrait plutôt un carton orange qu'un carton rouge.
L'expulsion, qu'elle soit méritée ou qu'elle soit pas méritée, c'est la décision de l'arbitre qui fait loi. Merci. Et je trouve que l'expulsion temporaire, elle a pas un sens par rapport à l'organisation d'une équipe.
Damien, et après, on va prendre Jean-Michel, qui nous attend au 32-16 pour une proposition.
Dans un premier temps, il faudrait que tous les joueurs de football connaissent déjà les lois du jeu. Parce que ça, c'est déjà ultra important. Je peux vous dire que quand il y a un arbitre qui arrive au sein même d'un club professionnel et qui demande, alors là, dans tel cas, c'est ci, c'est ça, c'est machin, il y a les trois quarts ne connaissent pas les lois du jeu, première chose. Deuxième chose, en fait, faut pas être réfractaire à tout. Il y a peut-être des évolutions qui peuvent être intéressantes. Et on voit que le jeu que l'on a aujourd'hui et qui le rend si intéressant en soi, c'est parce qu'il a subi des modifications de règles des années 50, 60, 70, et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on kiffe vraiment ce foot. Alors pourquoi il ne pourrait pas y avoir encore plus d'améliorations? Il y a peut-être des ajustements à faire, des adaptations à faire au niveau des règles, des lois, tout ce qu'on veut. Mais on peut pas toujours
être. Mais t'as raison là-dessus. T'as raison à 100% là-dessus. S'il y a des choses à améliorer, on est d'accord. Le football qu'on a aujourd'hui et qu'on aime tant, c'est parce qu'il y a eu des améliorations et des changements. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, la boîte de Pandore, de dire voilà, si on changeait deux trois choses, c'est que ça laisse lieu et place aux idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Si on parle de l'union temporaire, c'est farfelu.
Et pourquoi pas ?
Parce que ça fait pas. Parce qu'en fait, le dénominateur commun qui me rébute un petit peu quand on évoque tous ces changements, c'est qu'on dit oui, mais c'est pour mettre le jeu plus juste. C'est ça. Vous dites, ça évite de faire le jeu plus juste. Mais le football, il n'est pas arbitré par un juge.
Là, tu me parles de l'arbitrage.
Par un arbitre.
Alors, oui, on va parler de la vidéo.
La dramaturgie, le fait qu'il y ait des injustices, ça fait partie de l'essence même du football. Et c'est pour ça qu'on aime le foot. Donc, vouloir artificiellement agrémenter le football de nouvelles règles pour que ça tende vers une sorte de justice qui somme toute soit et un petit peu à mon sens totalement aberrante, parce que qu'est-ce que la justice en football?
Bon, on a parlé de spectacle, on a parlé de justice,
les règles du jeu.
On va parler de la vidéo qui va peut-être l'arrivée de la vidéo qui est une vraie révolution va peut-être être obligé en tout cas le board à changer certaines règles, on va en parler dans un instant. Fait. Mais je voudrais prendre Jean-Michel au 32-16 parce qu'il nous attend depuis longtemps. Jean-Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir François, bonsoir à toute équipe.
Merci beaucoup d'être avec nous. Sur le football du futur, est-ce qu'il y a une règle, toi, que tu aimerais supprimer ou voir apparaître?
Alors, je voudrais revenir sur les touches, puisque en fait, ce n'était pas l'objet de mon appel. Mais puisqu'il en était question, je trouve que la réalisation des touches au pied serait une bonne idée, à condition que la passe ne se fasse pas directement dans la surface de réparation pour éviter une occasion directe. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, très bien, c'est très clair.
Voilà. Donc, et ce serait, je pense que ça pourrait clarifier le jeu. Alors, l'objet de mon appel principal, là, c'était relatif au temps réel de jeu, c'est-à-dire au temps effectif de jeu, qui, on le sait maintenant, est de à peu près 60 minutes par match, c'est-à-dire à peu près deux tiers du temps total d'un match qui est de 90 minutes. Et donc, ça pose quand même un réel problème, sachant que, en fait, on joue réellement les deux tiers du temps total. Mmh. Alors, dans le basket, dans le handball, dans le rugby, le temps est arrêté. Le chrono est arrêté à chaque arrêt de jeu. Pourquoi il ne serait pas aussi arrêté au football?
Très bonne proposition. On va demander justement à Ludovic Tenez qui est avec nous si cette proposition pourrait voir le jour en football bientôt.
Alors le temps de jeu effectif, c'est pas une proposition de ma part, c'est Van Basten qu'on a parlé, mais c'est le premier qui me semble en avoir parlé pour les 10 dernières minutes du match, quand on voit ce qui se passe dans les dernières minutes, le temps perdu par certaines équipes qui mènent au score, donc ça c'est déjà une première chose. Et c'est aussi l'ambition de la FIFA, puisque redynamiser le football, c'est leur créneau d'eau depuis, je dirais, 5-6 ans. Ce qui est paradoxal avec l'installation du VAR, puisque le VAR arrête le match. Mais leur créneau, c'est redynamiser le match. Redynamiser le match, c'est accélérer les remises en jeu. L'exemple le plus fracassant, c'est bien sûr d'avoir mis un multiballon sur les touches, d'avoir 7 ballons pour mettre au ramasseur de balles, de jouer très vite et d'être remercié par Mourinho, par exemple.
Je ne trouve pas qu'il y ait besoin de redynamiser ce jeu. Je trouve que ce qui se passe sur le terrain avec cette règle qui est pour moi la règle la plus formidable dans le football, qui est celle du hors-jeu, mais tout est merveilleux, tout est un écrin à protéger. Après, en périphérie, par rapport au changement, pourquoi pas par rapport au temps effectif, mais même pas dans les 10 minutes, quand il y a 5 minutes de perdu, et bien que ce soit effectivement 5 minutes qu'on rajoute au temps de ce match. Pourquoi pas, mais dans l'essence même du jeu, et à un moment donné, tu t'es contredit, Jonathan, puisque tu dis qu'il ne faut pas y toucher, mais tu dis qu'en même temps, tu es réceptif à ce qu'il y ait des réformes par rapport à ce jeu. Je trouve que le foot n'en a pas besoin.
Non, mais j'ai pas dit j'ai pas dit qu'il ne fallait pas y toucher. J'ai dit qu'il ne fallait pas chercher absolument des idées farfelues pour innover. Après,
dans le jeu, il y a besoin de changer quoi ?
Alors, je respecte. Hein, c'est un jeu miraculeux qui est joué sur toute la planète par 200 pays, qui est regardé par tout le monde. Donc, c'est un jeu miraculeux qu'il faut toucher très peu. On est bien d'accord. Pour la dynamique du jeu, effectivement, le temps effectif, plus il y a de spectacles, donc plus il y a d'occasions. Donc, on a toujours été dans cette optique-là depuis quand même quelques années. On courait 9 km, on court 12 km, les joueurs s'entraînent plus, les espaces sont de plus en plus fermés. Donc, comment ouvrir un petit peu l'espace ? Voilà, c'est ça la question. Et donc, quand on voit les demi-finales de la Ligue des Champions de l'année dernière, on touche à rien. Hein. On est bien d'accord tous les deux. Ah ouais. Après, justement, si on voit des matchs de championnat des fois, faut peut-être toucher à quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a aimé dans ces matchs de Ligue des Champions, justement, c'est l'intensité et le rythme auquel ces matchs se sont joués. Là, en revanche, quand on parle du temps de jeu effectif et quand on se précipite pour faire une touche et pour mettre du rythme au match, il faut valoriser ce type d'action et de comportement. Et nous, moi, je sais que je l'ai vécu. Et parce qu'en fait, il y a des équipes parfois qui sont sur régime et qui font tout pour casser le rythme du match. Et après, encore une fois, c'est une règle, c'est une loi qui nous autorise à casser le rythme du match. Donc certaines équipes s'adaptent à cette règle-là et du coup, ça dénature le jeu. En soi, voilà, c'est-à-dire qu'on valorise pas l'équipe qui a le plus envie de jouer et de mettre du rythme au match.
Alors, on remercie Jean-Michel qui est passé dans l'after. Merci
Salut Jean-Michel.
Beaucoup. À bientôt. J'espère qu'on a été clair avec toi donc pour cette règle. Si vous avez d'autres règles, n'hésitez pas. Le 32-16, on va prendre d'autres auditeurs qui nous attendent, bien sûr, qui ont des propositions à faire. On est dans le gros dossier de l'after sur le foot du futur. Un foot du futur qu'a imaginé Jacques-Henri Hérault. Vous vous souvenez quand
C'est pas l'heure de mettre les guignols là. C'est vraiment.
Mais un tir marqué en dehors de la surface vaudrait 2 points. En finir avec les matchs nuls avec des séances de tir au but pour départager les équipes à égalité. Un point de bonus pour les équipes qui remportent un match avec 3 buts d'écart. J'ai vu passer d'ailleurs sur le hashtag Mon Foot du Futur ce point de bonus qui existe en rugby pour des équipes qui marquent 4 buts.
Mais vous savez quoi, ces propositions sont toutes aussi ridicules que le fait qu'il soit présent à l'Olympique.
Il a le droit de réfléchir au football du futur.
Non, il n'a pas le droit. Il a le droit de tenir de tels propos en étant un peu sérieux au bout d'un moment.
Ce qui est gênant, c'est qu'il a un poste à responsabilité.
Et alors, en tant que
président, que ce soit président de Real Madrid, président de l'Olympique de Marseille, le jeu
on peut pas réfléchir au football du futur comme on est en train de faire actuellement.
D'une manière intelligente, de manière concise, de manière
intelligente.
Intelligente.
En fait, ce qui est paradoxal, c'est que toutes les conneries que font le rugby, bah, éventuellement, nous, on va les reprendre avec le point de bonus offensif.
Il faudrait quand même revenir, parce qu'on parle de...
Excuse-moi, sur l'histoire de marquer des buts en dehors de la surface, ça compte 2 points ou 3 points. Mais en soi, je ne dis pas que c'est une super idée ou quoi que ce soit, mais le basket...
T'as passé trop de temps.
Comment ça se passe le basket aujourd'hui? Ça s'est trop. La ligne des 3 points a été instaurée. Ensuite, on a mis cette ligne de 3 points proche de la raquette. Laisse-moi terminer.
Ah, pareil.
Voilà, où il y avait les 3 points, c'était trop facile. Ah bah tiens, maintenant on l'a reculé d'un mètre la ligne des 3 points. Et là, c'est encore trop facile. Mais voilà.
C'est pas pareil. Compare le nombre de tirs au basket au nombre de tirs au foot.
Alors j'aimerais écouter.
C'est pas la même chose.
Ludovic, justement, sur ses propositions. On a entendu ici, et c'est vrai qu'il a été beaucoup moqué pour ça, dans ses propositions, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines, pourquoi pas, viendraient dans le foot du futur?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est déjà été discuté au board, c'est pas des propositions farfelues. Celles-ci n'ont jamais été discutées au board.
Donc déjà,
elles sont peut-être un petit peu farfelues.
Il va un peu trop loin.
Non, mais on parle du futur, peut-être dans 50 ans, là, je pense. Oui. Mais effectivement, changer la marque, beaucoup de sports qu'on l'a fait. Donc, on peut s'inspirer de ça, peut-être, si on trouvait que le jeu était pas miraculeux, s'il y avait plus de buts, si on passait en dessous de 2 buts de moyenne par match en Coupe du Monde, comme on est arrivé à 2,21 en Italie en 90, on s'est dit, il faut changer les choses. Là, pour le moment, ça s'est allé un petit peu loin.
Oui, parce que ce qui fait la beauté du foot, c'est qu'un but dégueulasse à 1 mètre des cages du pointu, ça vaut le même nombre de
plus-value qu'un tir à 40 mètres de la surface. C'est ça qui est beau.
Non, mais je crois que Ludovic, vous n'allez pas réussir à convaincre Jonathan que le football va changer.
C'est grave, je suis pas là pour convaincre. J'essaye d'expliquer comment ça a évolué. Qu'est-ce qui fait que ça évolue? C'est ça qu'il faut se poser comme question.
Oui, oui.
Alors, il y a 3-4 choses qui font que le règlement a évolué depuis 150 ans. Donc, la première chose pour moi, c'est une baisse de la tolérance à la violence. Donc, on a mis de plus en plus de coups francs, de plus en plus de cartons jaunes, de plus en plus de cartons rouges, effectivement. Donc, les fautes s'additionnent progressivement. Donc, on joue tous debout. Vous regardez un match de 74, mais ils sont tous par terre sans arrêt.
C'est ce qu'il y a de
74.
PSG Marseille, 91, c'est le plus grand match de l'histoire de Ligue 1.
Le bâtiment, c'est 1990.
C'était bien.
Tout à fait, plus de tac par derrière.
Le PSG Marseille de 91, c'était pas un beau match.
Je vois que je fais appel à des vrais connaisseurs.
C'est pas un beau match, PSG Marseille 91.
Deuxième changement qui était important dans l'histoire, c'est la volonté de l'institution de faire baisser la part de l'aléatoire. Donc mettre des filets de but, c'est bien contrôler qu'il y a but.
Oui, ça,
mais on est d'accord. Mettre des remplaçants,
mais Jonathan n'aurait pas été pour à l'époque.
Du monde en 58 et qu'on joue à 10 contre 11 contre le Brésil, pratiquement ce que Jonquier joue pas, c'est une part d'aléatoire. Il y a un blessé, on peut avoir un remplaçant, c'est moins aléatoire. Donc tous ces changements ont été faits dans cette optique-là. Donc les remplaçants ont été faits, le tir au but s'est fait comme ça. On tire à la pièce, les matchs, faut le savoir.
En 68, URSS, Italie, demi-finale de l'Euro.
Tout à fait.
Et les Italiens, ils avaient le même côté de chaque pièce.
Et Israël aussi, en 68, aux Olympiques, c'est pareil. C'est un Israélien qui décide de faire ça. Donc effectivement, la goal line, c'est ça. C'est pour dire, c'est pas aléatoire, puisque plus on met de technologie. Alors on pense, on peut discuter sur la technologie après. On pense qu'on met moins d'aléatoire puisqu'on met de la technologie. On voit qu'il y a une part d'interprétation quand même.
Moi, j'ai une proposition.
Vous restez, François, alors tu la donnes. On va teaser.
C'est que Jonathan se tape toute la Coupe du Monde 66, machin, et au moins de A à Z.
D'accord.
Il se tape tous les matchs.
Si tu savais, le nombre de matchs de Ligue 1 des années 90 que je me suis fait. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui se faisaient à cette époque-là que aujourd'hui, si je fais ça, tu vas en prison. Je pense qu'Eric, il aurait fini en prison.
Allez.
Mais ça a quand même, un certain charme, il faut le dire.
On revient, Ludovic.
Et j'ai un maillot tiré le rôle chez moi.
Vous restez avec nous.
Et ça crée une certaine inégalité. En Amérique du Sud, on pourra en parler.
Ludovic, on va continuer de parler de ce foot du futur. On va continuer ce gros dossier. On va faire un détour par le foot actuel. Actuellement, c'est Burnley Manchester United en première ligue. Clément Brossard.
Ouais, Burnley a bien besoin du foot du futur. 53e minute, 1-0 pour Manchester United face à une équipe de Burnley qui joue encore au kick and rush. C'est du jeu physique avec de longs ballons vers l'avant. Ça
c'est
ne marche
foot d'avant,
pas
ça.
Du tout. Voilà, c'est du foot d'avant. Il va falloir évoluer peut-être un peu dans le jeu de Burnley qui ne propose aucune solution offensive pour l'instant face à Manchester United. Le buteur, c'est Anthony Martial, 7e but de la saison à la 44e minute. Et pour l'instant, Manchester United qui crée la belle surprise de cette soirée. On les attendait vainqueurs face à Burnley, mais on n'attendait pas une telle remontée il y a quelques semaines encore. 1-0 pour Manchester United face à Burnley. On joue depuis 54 minutes.
Merci beaucoup Clément. Je vous rappelle que Leonardo Jardim va être licencié de l'AS Monaco. C'est officiel. C'est bien Robert Moreno, donc l'Espagnol, ancien sélectionneur, qui sera sur le banc de Monaco pour la deuxième partie de saison. Un résultat également à vous donner en JP Elite. C'est le championnat de France de basket. L'ASVEL a battu Gravelines 103-86. On revient tout de suite dans l'after. On continue de parler du foot du futur. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only, terms and conditions apply.